Bonjour, bienvenue à cette émission pop numéro 142 de Pop en stock. Mon nom est Mégane Bédard. Je suis en ce moment en remplacement de Jean-Michel Berthiaume et Hélène Lorrain. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui est près de l'actualité, puisque le 16 juillet dernier, donc 16 juillet 2017, nous a quitté un grand du cinéma d'horreur, donc j'ai nommé George R. Romero. Vous connaissez peut-être pour... donc, il est le plus connu pour, justement, les films de zombies, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et toutes ces autres séries de Of the Dead. Avec moi, j'ai en studio, à ma gauche, Boris Nonvelier, donc pour parler... Bonjour, Boris.
Allô.
Ça va bien?
Oui.
Et Maxime Robin, donc, salut.
Allô.
Ça va bien, toi aussi?
Oui.
Oui. Donc, on va parler de zombies, mais aussi d'autres choses, puisque Romero n'a pas juste fait des films de zombies. Donc, c'est quand même un touche-à-tout de l'horreur. Et on peut dire aussi qu'il a vraiment marqué le cinéma d'horreur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, habituellement, Romero a pris des figures qui étaient plus anciennes dans le cinéma et dans la bande dessinée d'horreur, comme les zombies notamment, mais aussi les vampires, et les a vraiment réactualisées pour les adapter justement aux problématiques qui étaient propres à son époque. Donc, on avait aussi The Night of the Living Dead, on voit que c'est pendant la guerre froide, donc en 1968. Dawn of the Dead, qui est plus une satire de la société de consommation de son époque. Donc, on va essayer aujourd'hui de rendre hommage donc à ce grand qui nous a quittés et de s'interroger un peu sur son héritage sur le cinéma d'horreur contemporain et sur les autres médiums aussi. Donc, il n'est pas fait que du cinéma, il écrit aussi beaucoup. Donc, on va commencer par un petit panorama de son œuvre. Donc, Boris, tu connaissais un petit peu plus que nous, que moi, en tout cas, ce qu'il a fait. Est-ce que tu voulais nous en parler un peu?
Oui, c'est ça. Alors, il commence avec Night of the Living Dead, comme tu disais, en 68. C'était presque un film étudiant, ça l'est pas, mais ils font ta propre maison de production. Il écrit ce film avec et il réalise avec un très petit budget, avec très peu de moyens, et il invente pratiquement le film apocalyptique de zombies. Et c'est un film qui est très... vous pouvez m'interrompre. Là,
oui.
C'est un film qui est très social, comme tu disais, Megan. Puis, non seulement c'est sur la guerre froide, mais c'est aussi sur les droits des Noirs.
Oui,
parce qu'effectivement, le personnage principal est un Noir, ce qui était assez rare pour l'époque, quand ça faisait pas partie de l'histoire, quand c'était pas justifié par l'histoire,
ça.
Que comme « Ah, mon chum est Noir, je l'amène à souper ».
Surtout dans le cinéma américain, même aujourd'hui, on voit que c'est souvent justifié quand il y a un personnage comme, qui n'est pas blanc. Là.
Mm-hmm.
Mais aussi, donc il y a un personnage noir, mais aussi l'autre personnage principal, c'est une femme, ce qui était quand même peu commun dans le cinéma de l'époque, j'imagine.
Oui, oui. Ben, elle n'est pas aussi importante comme personnage que les autres, mais c'est vrai que c'était aussi à remarquer. Et justement, il se fait tuer à la fin par d'autres survivants qui le prennent ou pas pour un zombie, c'est pas clair. Puis c'est ça un peu l'intérêt aussi. Est-ce qu'il était raciste? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est une erreur? On sait pas trop. Et après ça, il va faire un peu d'autres films qui ont moins rapport avec ce thème-là. Bon, qui vont encore être politiques, qui vont encore être des films d'horreur, mais qui seront... il va revenir juste 10 ans plus tard au film de zombies. Donc il va faire The Crazies, il va faire... Martin, qui est un film de vampire, plus ou moins, encore une fois, très social, mais où il va... Un film très malaisant, j'ai écouté il y a une couple de semaines, puis c'est en fait l'histoire d'un gars qui... On ne sait pas s'il est un vampire ou s'il pense qu'il est un vampire. Puis il a grandi dans une famille catholique, puis son grand-oncle n'arrête pas de dire que c'est un vampire, puis... Il l'entoure d'ail, puis il montre des signes de croix souvent pour l'éloigner. Puis le personnage principal a des flashbacks de comme en noir et blanc avec comme des scènes de films. On ne sait pas si c'est des vrais flashbacks ou des visions ou si c'est comme des scènes de films qu'il aurait vues. Mais en tout cas, finalement, il drogue des femmes dans le train, puis ailleurs, puis il leur coupe les veines, puis il les vampirise. Puis on dirait que c'est un film d'horreur sans la distance du film d'horreur.
OK, ouais.
Pour qu'on sente moins.
C'est quand même une prise de position particulière sur la figure du vampire telle qu'on la connaît, donc, qui est très, très empreinte de magie, de malédiction et de tout cet aspect-là qui, je pense, qui est comme enlevé au complet du film. Là, donc, je pense que j'ai lu un peu là-dessus, mais je ne l'ai pas vu, Martin. Mais c'est, là, les crucifix, ça ne fait absolument rien sur lui. Il s'en moque. Puis,
Non, c'est ça. Puis on sait pas vraiment si c'est un vampire ou pas, finalement. Ça peut totalement être vu comme un film réaliste.
Oui, c'est ça. Mais ça me rappelle un peu aussi la façon dont il a traité le zombie, qui était avant ses films à lui, vraiment justement aussi empreint de magie, très relié à la tradition vaudou. Surtout les films des années 20, là, donc, et dans les bandes dessinées un petit peu avant, dans les années 50. Puis lui, il prend le zombie, puis il lui donne cette nouvelle idée qui est très contemporaine, mais c'est l'idée de la contagion. Là, donc quand on se fait mordre par un zombie, on devient un zombie. Là.
Ouais, c'est ça.
Cette réactualisation-là qui est déjà avec Martin, qui on voit que c'est propre à son œuvre.
Ouais, puis qui n'existait pas avant. Avant, le zombie, c'était pas une foule, c'était pas une masse. Mm-hmm. C'était comme une espèce de spectre, toujours avec le contexte du vaudou. Et c'était les films de zombies, c'était comme... Il y avait un zombie ou deux, puis il y avait un magicien derrière, puis il y avait comme...
C'est plus proche du concept de golem des juifs.
Exactement,
en fait.
C'est un. J'ai pas lu beaucoup de bandes dessinées d'horreur de cette époque-là. J'aurais tendance à croire que c'est pareil.
Oui, ça ressemble un peu. C'est vraiment l'idée... dans les bandes dessinées des années 50, c'est l'idée plus de la goule qui venait pour se venger. Là. Il y avait souvent ça, un peu comme un fantôme, là, donc dans l'imaginaire populaire. Oui, c'est ça. Avec le zombie vaudou, j'avais fait, une couple d'années, quelques recherches là-dessus. C'est vraiment l'idée de la relation entre le maître vaudou et son esclave zombie. Donc, c'est très ancré dans cet imaginaire-là de l'esclavagisme aussi. Là.
Mm-hmm. Oui.
Ça vient d'Haïti, là, justement.
Oui, c'est ça. Et puis après ça, il va faire Dawn of the Dead, qui va être un vrai phénomène, là, qui a fait 55 millions sur un budget de 1,5 million au box-office. Après ça, il va être capable de faire des projets un peu plus grands, mais il va pas encore travailler avec des grands studios. Ça va juste arriver fin 80 avec Monkey Shines, puis ça durera pas longtemps. Puis je pense pas que c'était un gars de grands studios. Je pense pas que c'est des films de cette envergure-là, puis c'est des films avec ces visions-là, parce que justement, il y avait une vision assez anticonformiste, puis souvent ces films, même ces films qui sont pas politiques, même ces films qui sont pas des films de zombies sont souvent politiques. Je dirais qu'ils sont tous politiques, mais ça revient assez souvent. Et au début des années 80, il va faire un film qui s'appelle Knight Riders avec Ed Harris, et ça, c'est un peu mon coup de cœur, parce que c'est un film qui est tellement naïf puis sincère. C'est l'histoire d'une communauté de carnaval qui font des jousting competition, des compétitions de à chevaux.
J'ai oublié c'est quoi le mot en français.
Ouais,
là,
c'est mais... ça, mais bref, c'est des chevaliers qui se tapent dessus, sauf que ils ont pas de chevaux, ils ont des motos.
Okay.
Fait que c'est comme ils sont tout habillés en chevalier, ils ont des épées, ils ont des lances, puis ils se foncent dessus avec des motos, puis ils se déplacent en moto. Puis ça a l'air d'être un concept d'un film de série B de 1h20, puis c'est un film qui dure 2h20.
Wow.
Puis c'est vraiment toute une exploration d'un gars qui finalement veut vivre dans ce monde-là, puis il veut jamais en sortir. Puis il y a finalement des jeux de politique, puis des jeux d'argent auxquels il veut pas céder. Puis c'est souvent ça que j'aime avec lui, c'est qu'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... c'est très sincère, ces films. C'est comme, même si c'est très noir, souvent sincère puis naïf vont ensemble, mais même si c'est très noir, même si c'est très défaitiste, je trouve qu'il y a une espèce de sincérité. Tu sais, Day of the Dead qui tient, dont le concept tient juste sur un petit rien, là. C'est juste des militaires, des scientifiques dans une base qui se chicane, puis il y a des zombies, puis ça marche vraiment bien.
Mais c'est très classique aussi, le surtout au cinéma d'horreur et au cinéma de science-fiction, là, l'espèce de chicane entre les militaires et les scientifiques, là, ça date depuis les débuts du cinéma de science-fiction, fait que c'est quand même... Je l'ai pas vu, c'est Day of the Dead?
Ouais, Day of the Dead.
Ça, je l'ai pas vu, mais ça doit être quand même... Il doit avoir quand même une espèce de twist intéressante qui doit amener à un scénario assez classique, là, on va se le dire, là.
C'est les militaires qui... À la base, c'est une installation... je sais pas si tu veux en parler, Maxime, vu que tu m'as dit que c'était ton film préféré de Romero.
Clairement, j'aime mieux que le remake, clairement.
Ouais.
En fait, dans tous les Of the Dead, finalement, c'est le film que c'est un huis clos, vraiment, je pense.
Oui. Il y a Night of the Living Dead aussi.
Il y a quelque chose avec la profondeur des personnages du scénario qui sont dans cette situation-là. La tension qui est là est faite juste par la bande, par les zombies, mais est portée à d'autres choses. Est portée au fait que les militaires et les scientifiques ne cherchent pas la même manière de s'en sortir, finalement. Okay. Donc, ça parle beaucoup plus, comme beaucoup des films de Romero, les zombies qui sont pas nécessairement appelés comme ça, sont juste une raison de parler de l'homme, finalement.
Oui, c'est vrai qu'au final, mais surtout la figure du zombie, mais les figures d'horreur en général, on finit toujours par réfléchir plus souvent à nous-mêmes vis-à-vis du monstre, si je peux dire, qu'au monstre en tant que tel, là. Donc, c'est sûr que la figure de zombie est assez pleine de complexité, surtout dépendamment dans quel scénario a fini par s'intégrer. Là. Donc, je pense, par exemple, aux zombies plus contemporains, donc de Contagion, comme on voit dans les World War Z, 28 Days Later, là, c'est plus comme une peur des avancées scientifiques, donc de la biotechnologie qui peut dériver très facilement versus... les zombies de Romero, mais surtout, moi, j'ai Dawn of the Dead dans la tête, là, donc, qui est vraiment très, très explicite là, comme critique sociale. Là, donc, on voit les zombies dans le centre d'achat qui font juste se promener toute la journée. Là. C'est quand même assez... c'est assez explicite de voir quelle critique se cache derrière ce film-là. T'sais, on n'a pas besoin de fouiller longtemps aussi quand on voit un film comme ça. Là.
Mm-hmm.
Ouais. Sinon... c'est ça, Day of the Dead, après.
Day of the Dead, c'est son troisième film de zombies. Puis après ça, il va faire Monkey Shines, qui est un film de grand studio, comme je disais. Puis ça, c'est un drôle de film parce que c'est un film d'horreur avec un petit singe capucin, vraiment, vraiment super cute. Puis c'est un singe entraîné qui a vraiment été utilisé pour le film. Puis c'est un helper monkey. Là. C'est un singe qui aide des personnes paraplégiques à avoir différentes... À vivre une vie normale, en fait. Et puis, vu qu'il y a des expériences qui sont faites sur ce singe-là dans le film, ben il développe une connexion un peu malsaine avec son propriétaire. Puis finalement, ça tourne mal. Mais c'est un drôle de film. C'est un film comme on n'en verrait pas aujourd'hui, justement, parce qu'il y a un vrai singe.
Ouais, OK, ouais.
On aurait soit fait animatronics, soit CGI. Ouais. Puis c'est un bon... c'est comme un espèce de thriller... c'est plus le côté social que politique qui est présent là parce qu'il y a quand même un espèce de côté oppressif dans toute la maison avec les gens qui travaillent pour ce gars-là, puis le singe, puis finalement quelque chose de malsain qui se développe. Mais c'est pas tellement un film d'horreur, plus un thriller, mais il vaut quand même le coup. Puis après ça, il va faire... plusieurs projets. Il va faire un film avec Dario Argento. On va chacun faire un moyen métrage. Il va faire une adaptation de Stephen King, qu'il aimait beaucoup déjà avant, qui s'appelle The Dark Half.
OK.
Puis ça va être son dernier film des années 90. Ça va être en 93. Puis il va avoir un gros trou jusqu'à 2000. Puis en 2000, il va avoir Bruiser, qui est un film produit par Canal+, sur un tueur en série. Et puis après ça, ça va être La Porte est de nouveau ouverte, le remake de Dawn of the Dead, puis Shaun of the Dead, donc comme recréer une mode.
Ouais, 28
Days Later, je pense, qui était le premier dans cette histoire.
Ouais, 28 Days Later, je pense, c'est le début des années 2000. Donc, ouais. Mais on voit vraiment qu'après 2001, il y a comme un boost des films de zombies. Là, je sais, plus lequel est arrivé en premier, ma mémoire.
Je pense que c'est 28 Days Later, ouais. Mais c'est à vérifier. Mais yeah, ça devient, je pense que c'est plus populaire que jamais. Là.
Ah,
ouais,
mais
grand public.
J'ai l'impression que la vague ralentit un peu aujourd'hui. Là. Ça peut-être, l'âge d'or, c'était plus comme peut-être 2011-2012. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Maxime. Là.
Ouais, pas mal ça. Mais ouais. je pense que l'intérêt maintenant pour les zombies est peut-être différent de, dirais, la grosse époque de Romero.
Ouais.
Je pense que les gens dans ce temps-là étaient intéressés par le shock value, mais beaucoup par le commentaire de ces films-là aussi. Tandis que maintenant, peut-être qu'il y a un intérêt plus grand pour le post-apocalyptique,
ouais, c'est ça, ouais.
Qui est relié quand même à l'univers ouais. des zombies.
Ça commençait un peu avec Romero, mais sa vision post-apocalyptique n'était pas, surtout dans ses premiers films, n'était pas comme étendue sur le monde au complet. Là, aujourd'hui, on dirait vraiment un fantasme de destruction du monde là, à chaque nouveau film, que ce soit des zombies, des ghouls ou
et d'ailleurs, on le voit maintenant, et c'est la parenthèse des zombies maintenant, on le voit maintenant avec qu'est-ce que c'est The Walking Dead.
Ouais,
l'intérêt n'est pas les zombies et refaire une société maintenant.
Ouais, mais c'est aussi,
après. Donc, l'intérêt, c'est pas l'attaque de zombies. D'ailleurs, l'attaque de zombies, on la voit même pas.
Puis, elle est vraiment inintéressante aussi à partir de la deuxième saison. Là, c'est vraiment plus le conflit l'homme contre l'homme. Là.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Il y a tout le temps un gros ennemi dans Walking Dead pour toutes les saisons.
Méchant.
Et c'est tout le temps un homme. C'est jamais les zombies. C'est jamais survivre aux zombies. C'est survivre à l'homme.
Ils viennent juste une petite nuisance. Là.
Ouais.
Et c'est versus, moi, j'avais beaucoup aimé le livre de World War Z. Donc, par rapport au film, le film qui est pas mal juste devenu un gros blockbuster justement de destruction, mais le livre avait un gros commentaire politique et social qu'on pourrait facilement relier au film de Romero sur les zombies. Là. Donc, vraiment de voir le point de vue subjectif sur les événements, mais il y a quelque chose de anti-establishment, si je pourrais dire, là, donc anti-industrie qui se reflète beaucoup, on le voit dans les films que tu nous décris, Boris, dans son côté vraiment indie, là, de pas vouloir entrer dans les grosses industries. Je sais que j'avais lu qu'il avait fait une publicité pour Resident Evil, Resident Evil 2, quand c'est sorti. Puis après, on l'avait approché pour écrire le scénario du premier film. Il avait refusé, finalement, il avait accepté. Il avait écrit un scénario, mais il a été rejeté, finalement.
Ouais.
Donc, on voit qu'il a toujours essayé de il pivote un peu autour de cette grosse machine du cinéma, mais malgré tout, il reste toujours en dehors. Là.
Mais je pense qu'il s'est aussi fait... il s'est fait typecaster dans ce genre de film-là.
Ouais.
C'est pas quelque chose qui nécessairement l'intéressait, mais là, avec la mode, puis tout ça, tout le monde s'est mis à lui dire comme « viens ».
Ouais.
Évidemment, tout il est adulé aussi, devenu comme une espèce de figure. C'est assez spécial. Fait que je pense qu'il il essaie d'en profiter pour faire ses projets, puis pour faire ses films. Puis il a quand même réussi à faire quoi, trois films dans les années 2000, juste là-dessus.
Ouais.
Ben, juste là-dessus, je veux dire, il y avait des visions, mais je pense pas qu'il aurait, dans un autre monde, été capable de le faire.
Non, mais peut-être pas comme il l'a fait non plus.
Là. Non, c'est
ça. Plus de budget aussi, plus de...
Ben surtout pour Land of the Dead, là, qui était comme son retour un peu après les années 90. Après ça, c'était des films un plus petit budget, mais il a quand même réussi à faire ce qu'il voulait, j'ai l'impression. Puis, il était aussi presque à la retraite, fait que je sais pas à quel point ça m'intéressait de se pitcher partout, mais...
C'est ça, mais il était vraiment étiqueté que le réalisateur qui a amené le zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors que c'est pas nécessairement celui qu'on voit aujourd'hui. On en a parlé un peu vite, mais je sais pas si on pourrait approfondir un petit peu cet aspect-là. Donc, les zombies tels qu'on les voit depuis peut-être le début des années 2000, c'est pas nécessairement... Il a amené, je pense, une certaine idée du zombie, donc surtout l'idée de contagion, mais à part de ça, c'était pas très explicite au point où ce qu'on les voit aujourd'hui. Là.
Je pense que beaucoup de gens qui qui voit un peu toute son œuvre comme s'il y avait un zombie. Mais clairement, Bob dans Day of the Dead est pas pareil comme les zombies de Night of the Living Dead. Je pense que... Bon, là, on peut aussi ajouter qu'il n'est pas pareil que les zombies de Diary of the Dead ou je sais pas. Je pense que pour chaque film, il repensait le zombie,
mm-hmm.
ouais. ce qu'il voulait ouais. dire, par rapport à ce qu'il voulait dire. Fait que dans ce sens-là, c'est très loin de ce que c'est maintenant les gros films de zombies à grand déploiement. Là, ils pensent vraiment avoir une définition de zombie, puis on va le faire comme ça. Puis ça va se tenir, il n'y aura pas de contradiction.
Alors que c'est pas du tout le cas, là.
Non, ben c'est ça. Quand tu regardes vraiment plusieurs films de Romero, il y a vraiment des différences entre les films pour ça.
Mais... Puis c'est ça, c'est chaque film est différent, donc chaque film va aussi regarder ça de manière différente.
Mm-hmm.
Comme tu dis, comme il va y avoir une réutilisation, une réinvention à chaque fois, un peu comme on va refaire le costume de la bibitte dans oui. Alien, par ouais. exemple. Tu sais, mm-hmm. à chaque fois, ben là, on va comme ça va devenir autre chose. Puis on va avoir plus de maquillage, avoir plus de budget pour le maquillage. Fait que il y a aussi une progression à ce niveau-là.
Je pense que foncièrement, comme cinéaste, comparativement à quelqu'un comme même comme John Carpenter qui voulait aller de ce côté-là des grands films, finalement, Romero a toujours été à quelque part un réalisateur de films d'auteur. C'est pour ça qu'il a repensé à chaque fois qu'est-ce que ça voulait dire des zombies, qui voulait pas nécessairement les appeler des zombies.
Oui, oui, c'est ça. Je pense pas que le mot ait été même prononcé.
Et dans ce sens-là, pour lui, je pense pas qu'il y avait une grosse différence entre les personnes débiles dans The Crazies et les zombies dans Dawn of the Dead.
Oui.
C'était juste une raison pour amener une histoire, mais... c'était relativement dans l'échelle des zombies, c'était dans la même échelle.
C'est là, très, très près. Là.
Ouais.
Puis c'est aussi que souvent, je pense que c'est toi qui disais ça, que Megan, que les gens allaient voir des films politiques et des films d'horreur, et souvent dans le même film, mm-hmm. mais souvent ils ne savaient pas aussi, je pense. Je pense que dans les années 70, c'est la grosse décennie pour ça. Ça va être avec tous les enjeux politiques qui commencent à la fin des années 60. Il y a bien des réalisateurs qui veulent amener des choses là-dedans, puis sous couvert de faire des films sensationnalistes puis des films avec du gore, ben ils vont aussi amener une réflexion, puis tout d'un coup, ben on va se rendre compte, sans le vouloir, que ça fait une heure et demie qu'on réfléchit.
Oui, c'est ça. Puis c'est... souvent, après une heure et demie, on le sait pas, mais sans réfléchissant plus tard, c'est ouais. comme le after effect, là, le après-coup. Là. Donc mais oui, c'est vrai, les deux décennies, les années 60, ça commençait un peu. Puis
ouais.
C'est sûr que, mettons, aujourd'hui... Moi, je n'avais pas vécu, là, j'étais pas née.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, on a des cours de cinéma, puis on voit que ça devient tellement naturellement d'appliquer un message politique à ces films-là, alors que, comme tu le dis, peut-être qu'à l'époque, les gens n'allaient pas voir ça pour voir des films politiques, ils allaient voir ça pour du gore.
Ben, Dawn of the Dead, qui était ouvertement un film d'exploitation, là, mm-hmm. avec plein de gore, puis des motards, puis ouais, c'était clair.
D'ailleurs, le trailer, il y avait un trailer, même si dans ce temps-là, de ça, mm-hmm. est très... Shock value, là, mm-hmm. très graphique, là, pour attirer les gens avec la violence.
Ah oui.
Ah oui. Puis c'est ça, t'as nommé John Carpenter, puis moi je le place un peu dans la même gang. Là.
C'est clair, mais tu comprends que la volonté de chaque était différente, mais clairement, ouais. John Carpenter a eu le même genre de commentaire très social aussi.
Ouais, ouais, puis ils étaient tous les deux de gauche, puis ils étaient tous les deux très engagés, puis ils avaient leur vision, ils étaient un petit peu à la marge aussi. Mais c'est de là, puis Wes Craven, puis Cronenberg, qui ont comme un peu façonné l'horreur, puis même le je dirais même jusqu'à dire le zeitgeist de cette époque-là. ils ont vraiment amené autre chose. Mais bon,
ils ont un peu établi une façon de faire le cinéma d'horreur qui a fait son effet puis qui a fait son chemin aussi. Je suis pas très experte du cinéma d'horreur contemporain aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant parce que j'ai pas vu les remakes de Night of the Living Dead puis Dawn of the Dead. Mais est-ce que ça se traduit encore? Night of the Living Dead, c'était les années 90, le remake, puis Dawn of the Dead, c'est 2004, si je me souviens bien.
Oui.
Est-ce que ça se traduit encore, le message politique, est-ce qu'il se traduit dans le remake ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que c'est updaté, justement, adapté à la société d'aujourd'hui ou c'est vraiment plus comme on voulait refaire le film?
Ben, c'est adapté, mais c'est pas très politique. Là. Dawn of the Dead, j'ai pas vu le remake de Night of the Living Dead, mais Dawn of the Dead, c'est un film popcorn, vraiment le fun. Hein. Il est bien fait. C'est un remake qui est bien fait, mais on essaie de faire autre chose. Puis il n'y a pas vraiment beaucoup de messages politiques là-dedans. Puis connaissant Zack Snyder, c'est probablement une bonne chose.
C'est Zack Snyder?
Oui, c'est son premier film, puis c'est son plus réussi, je dirais.
Ah, après, c'est...
maximiser au maximum l'action qu'il y avait dans le premier film.
Ouais, c'est ça. Mais on retrouve quand même ça dans d'autres films. Il y a comme un retour un peu ces temps-ci avec It Follows, avec Get Out, que j'ai pas vu, mais que ça a l'air qui est très politique. Il y a comme une volonté, inconsciente ou consciente, de revenir à ce genre de films-là ou des films qui veulent dire quelque chose.
Qui était
Dans le cas de Get Out, ça fait revenir des gens voir un film d'horreur au cinéma, des gens qui y auraient tendance à dire « j'aime pas le cinéma d'horreur ».
Mais je sais pas si c'est juste mon impression, mais j'avais pas l'impression qu'il avait été... étiqueté horreur de prime abord, Get Out. C'était ça aussi qui a amené...
Ça dépend. À cause de ça, ça dépend à qui tu parles.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est vraiment... Il y a les tropes de ça.
Puis moi j'ai suivi un peu la campagne de publicité, puis aussi la réception, puis il semble l'avoir vu, je suis sûr que c'est un film d'horreur. Là.
Ouais, c'est ça.
Juste avoir regardé un peu la réception de ça, mais... Peut-être que...
Mais pour beaucoup de gens, un film d'horreur veut dire que c'est très graphique et que c'est très gore, quand c'est vraiment pas ça. C'est juste un film que t'as peur.
Ouais. Mais c'est ce que aussi...
C'est un film d'horreur.
Depuis la moitié des années 2000, on est un peu habitué justement à... Surtout, moi, je pense à la série des Ça, là, Décadence et compagnie. Là, on est habitué à des films d'horreur qui sont de plus en plus graphiques, de plus en plus gore, ou avec juste des jumpscares. Mais vraiment basé sur l'action ou sur le fait que tu vas avoir peur parce que tu vas sauter parce que justement c'est basé sur l'action et pas sur
la réaction
et la réflexion parce que des fois il y a les films de Romero, j'ai pas vu ces films pas de zombies là, mais c'était pas axé nécessairement sur les jumpscares ou sur, c'est vraiment plus viscéral, c'est plus réflexif. Un peu comme le cinéma. C'est sûr que dans le cinéma des années 70, il y a beaucoup de scènes très gore qui étaient très graphiques pour l'époque. Pour nous, aujourd'hui, c'est un petit peu plus toned down parce qu'on est habitué à vraiment pire et des effets spéciaux plus réalistes aussi. Mais il y a quelque chose qu'on a un petit peu perdu, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que j'écoute plus de films d'horreur parus après 2000.
Il va toujours en avoir qui vont essayer de faire du vide ou qui vont essayer de faire du sensationnalisme, puis il va en avoir d'autres qui vont faire autre chose. Mais j'ai quand même tendance à dire que si tu regardes des films un peu plus indie, il y a de quoi d'intéressant à aller chercher.
Ça faut fouiller un petit peu plus.
mais il y a comme plusieurs personnes qui s'interrogent justement que ça serait peut-être le retour du cinéma de genre en général.
Ouais.
Parce que avec le retour de Star Wars, les films de science-fiction redeviennent à la mode. On fait des films de science-fiction à gros budget comme avant. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Comme à moi, on en voyait genre un ou deux, trois ans, là, mais Children of Men.
Une à chaque année, une grosse production.
Mais là, ça devient comme les grands studios veulent jouer, les petits studios veulent jouer. Puis avec les Colossal, le film de Kaiju, comédie romantique, il y a comme une espèce de retour. Puis ça va donner sûrement toutes sortes de choses, là, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme si les genres se réapproprient la culture populaire.
Oui, c'est vrai. C'est plus l'hégémonie du cinéma d'action. Là, on essaie d'aller plus vers le côté plus générique, là, que ce soit la science-fiction, l'horreur ou même la comédie romantique. Là, fait que,
ouais.
On voit déjà qu'il y a... C'est comme tu dis, s'il commence à avoir un retour, ça veut dire que nécessairement, il y a une influence du cinéma ou une espèce de nostalgie au début parce qu'on est vraiment dans une période qui est très attachée à ces années-là. On essaie de ramener quelque chose de ces années-là qui existait ou qui n'existait pas. Donc, bon, plus de nostalgie. Peut-être qu'en faisant retour à ces années-là, on ramène un peu ce type de cinéma auquel on était attaché
ouais,
à l'époque.
Oui, il y a ça aussi. Ben, on carbure beaucoup la nostalgie. Puis on essaye de faire revenir... Ben, je sais pas si on essaye, mais il y a quelque chose qui revient.
Mm-hmm.
Ouais, mais... Qu'est-ce que... C'est comme une espèce de... J'ai l'impression que c'est j'ai des choses qui me passent par la tête, là, mais c'est un espèce de melting pot, finalement. Ça devient un petit peu de E.T., puis un petit peu de Star Wars, puis un petit peu de zombies, puis un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, puis ça fait comme... Ça commence à faire pas mal de temps qu'on est là-dedans, là, qu'on est dans cette nostalgie-là. Ouais. Là, c'est comme... Ça fait 2-3 ans que c'est big. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je me demande si, à un moment donné, ça va pas tout s'effoirer.
Ben ça se peut. Puis il y a aussi le fait que... On peut parler de façon aussi lucide du cinéma d'horreur de ces années-là parce qu'on a un recul. Aujourd'hui, on n'a pas de recul. Donc, peut-être qu'éventuellement, le tri va se faire. Puis dans 20 ans, on va pouvoir faire des commentaires plus éclairés sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais peut-être que c'est ça. C'est pas juste la nostalgie. On essaie pas juste de faire des productions originales, mais il y a beaucoup de remakes. Il y a beaucoup de reboots aussi, de franchises. Souvent, pour avoir un résultat plus pauvre, donc qui est plus basé sur l'esthétique, sur le visuel et moins sur le message original. Est-ce que... Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec cette question-là, mais c'était comme des commentaires.
Mais c'est ça, ces gars-là, le George Romero, puis Carpenter, puis les autres, c'est justement des gens qui ont évolué dans des milieux assez restreints, dans un cinéma assez... assez indépendants, puis qui sont devenus big par la suite, des fois pas longtemps, mais alors que là, on est comme face à ces grosses machines qui essayent de réutiliser ces affaires-là, puis de les répéter ad nauseam. Fait que c'est comme si finalement, ces petits gars qui venaient avec des bâtons pour poker les gens dans la rue, là, ben ils sont comme, ils ont été repris, puis ils ont été comme réinstrumentalisés, mais ça marchera pas parce qu'il y en aura d'autres.
Ouais.
Parce que ce que les films de zombies sont devenus, ce que les films de science-fiction grand budget sont devenus, ça n'a plus tellement à voir avec ce qui était, mais il va y avoir d'autres, j'ai l'impression, je pense qu'il y a toujours, il va toujours avoir des gars qui ont comme 5 000 piastres dans les poches, puis qu'ils veulent faire un film, puis il va brasser la cage, puis il va avoir un nouveau Romero, puis un nouveau Carpenter.
Ouais, c'est ça, c'est cyclique aussi, ouais. Là, on essaie de faire du nouveau, mais avec du recyclé, mais on veut toujours aller vers quelque chose de moins mainstream aussi, c'est ça qui fait avancer les choses. J'aimerais ça revenir... parce qu'on en a parlé un petit peu de la figure du zombie, mais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur dans ces questions-là, parce que c'est assez complexe. Et c'est ça, on parlait un peu du vaudou, puis de la façon dont Romero, pas juste avec le zombie, le fait avec d'autres, des psychos avec The Crazies ou les vampires avec Martin, de vraiment essayer d'amener... l'envers des figures, c'est essayer de ne pas aller dans la lignée de ce qui se faisait déjà, mais de montrer une autre facette, un vampire pas magique, un zombie en masse ou quelque chose d'autre. Essayer de voir comment il a fait ça, puis c'est quoi un peu l'héritage qu'on a de ça aujourd'hui. Là, donc, parce que c'est drôle de voir qu'on parle de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui puis de comment c'est industrialisé. Mais lui, il a fait exactement l'inverse à son époque et c'est redevenu industrialisé, donc c'est cyclique. Donc, on va vraiment essayer de... Est-ce que on pourrait aller avec...
Ben, la figure du zombie aujourd'hui, tu veux dire?
Non, mais comment il l'a transformé, mais dans chacune de ses productions, parce que Night of the Living Dead, c'est très, très mystérieux, il se passe à peu près rien.
Ouais,
mais en même temps... on met vraiment ce film-là comme le moment où ce que l'imaginaire du zombie s'est transformé complètement. Mais pourquoi? Parce qu'il se passe rien dans Night of the Living Dead. C'est, on pourrait...
Mais je pense que c'était quand même un jalon. Là. Mais après ça, il y a eu des films qui ont un peu imité ce film-là, qui sont plus ou moins été oubliés après. Mais ça s'est pas fait d'un seul coup. Ça a pris... Mm-hmm. En fait, je serais même tenté de dire que ça a pris 10 ans. Que ça a pris jusqu'à Dawn of the Dead pour que ça devienne vraiment... Mais il y a eu des films de zombies à la Night of the Living Dead avant Dawn of the Dead. Mais là, ça devient un phénomène. Puis là, tout le monde veut faire des films de zombies. Okay. Il y a des Italiens qui se mettent
J'ai l'impression qu'avec... a fallu que Romero montre exactement graphiquement c'est quoi un zombie avec Dawn of the Dead pour que les gens allument. Ah, OK, on peut faire des films.
Oui, c'était pas très clair dans Night of the Living Dead. C'est très le fun puis qui est très représentatif de la figure du zombie, c'est qu'au début de Night of the Living Dead, il y a la scène dans le cimetière où il y a une fille et son frère qui sont là. Puis là, il y a quelqu'un qui s'en vient de loin puis qui se rapproche. Puis on n'est pas trop sûr. C'est quelqu'un qui marche très, très lentement. Puis on n'est pas sûr si c'est... Non, on sait pas que c'est un zombie, on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui marche. Puis le frère qui tease un peu sa sœur, puis il dit « Ah, il va te manger ». Finalement, c'est un zombie, puis il saute dessus. Mais le maquillage et les effets spéciaux, c'est très, très minimal. C'est juste des gens en haillons qui marchaient dans la rue. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, c'est très, très graphique. Là. Il y a des gens qui manquent des bouts de face, mm-hmm. ou comme le zombie au début de Walking Dead, là, donc qui reste juste comme un torse puis un bras, là. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu une grosse évolution à partir de ça. Mais dans Night of the Living Dead, c'est vraiment plus l'idée du uncanny, là, donc qui est humain, mais pas vraiment humain. Donc, de l'inquiétante étrangeté, là, si on veut se référer à Freud, qui est propre à la figure du zombie. Là. C'est quelqu'un qui est très, très proche de nous, mais qui est très différent. Donc, c'est ça qui crée la peur, plus que la répulsion qui vient du gore. Puis là, peu à peu, on va vraiment vers les effets spéciaux plus réalistes, plus dégueulasses et vers le gore. Donc, il y a une évolution de cette figure-là à travers les films. On le voit vraiment. Là. Tu disais, c'est Dawn of the Dead qui
est vraiment plus graphique. Ouais. Et on peut voir, à partir de là, tous les Italiens qui ont commencé à faire des films vraiment gore.
Ouais.
Puis Cannibal Holocaust, puis aller vraiment dans ça, tu sais. Mais ça vient de là à quelque part. Donc, c'est le moment que Romero a décidé de peut-être être un peu plus graphique avec Dawn of the Dead pour aller un petit peu plus loin que Night of the Living Dead, en fait.
Ouais, puis on va aussi avoir... il va aussi jouer un peu, là. Il va avoir des zombies qui vont être plus différemment habillés. Puis là, ça va pratiquement être un jeu de repérage, là. Il va avoir le zombie Hare Krishna, puis le zombie clown, puis le zombie policier, puis le zombie ci, puis le zombie ça. Puis on va revenir avec ça dans Day of the Dead. Puis fait que là, t'as la collectivité qui devient une somme d'individus qui, pris à part, sont des individus avec leur propre, avec une individualité propre, mais mis ensemble, ça devient une grande masse qui enterre tout et qui entoure tout. Mais il y a quand même cette espèce de côté ludique, là. Ouais. On est toujours un peu dans l'humour souvent dans ces films-là, ouais. parce que c'est ça, là. C'est comme une bunch de zombies qui enterrent une maison.
Dans ce sens-là, quelque chose comme dans les années 2000, comme Shaun of the Dead, n'est pas si loin de l'esprit des films de zombies, d'en faire une comédie. Ceci dit, quelque chose comme Zombieland est très loin de l'esprit, peut-être, de critique sociale de ce que c'était les zombies à la base.
Mais au final, c'est ça, il y a toujours la figure, mais la figure devient de plus en plus grotesque, là, de moins en moins effrayante, de plus en plus grotesque. Donc, on a moins peur du zombie que de la masse ou de comme la fin du monde. Puis, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, qui joue sur l'humour puis sur l'absurdité de la popularité de la figure, c'est les Dead Snow. Donc, Dead Snow et Dead Snow 2, Red vs. Dead, parce que c'est des nazis zombies comme... qui ont été réveillés grâce à une malédiction. Donc, on vient vraiment à avant Romero, donc toute cette idée de magie là, qui ressort. Puis il y a quelque chose avec les tendances plus contemporaines de films de zombies à vouloir faire un petit peu n'importe quoi. Donc, pas n'importe quoi dans le sens sans pas réfléchir, mais faire un petit peu de tout. Donc, on a les zombies contagieux, on a les zombies magiques, on a les zombies complètement absurdes, qui, des zombies nazis qui se battent contre des zombies russes.
Oui. Ce film-là, cette série de films-là, c'est juste deux films à date, ouais. Là, mais j'aime le comparer dans ma tête à Evil Dead. Là. C'est un peu comme ça. Le deuxième, ça devient genre une comédie complètement grotesque.
Army of Darkness. C'était Evil Dead.
Ouais, ou même Evil Dead 2 aussi, qui est déjà à ce niveau-là. Là, mais...
ou même la série de Ash versus Evil Dead.
Oui, oui.
Ouais. Vraiment, qui est...
J'ai juste vu la saison 1.
C'est comme slapstick, mais avec du sang.
Oui, ouais, ben on a inventé un terme pour ça avec Brain Dead de Peter Jackson. On a inventé le terme splatterstick.
Ou splastic, oui. Ouais.
C'est Splatstick?
Oui, je pense que oui.
Ah oui, peut-être, oui.
Mais oui, c'est ça de Splatter puis Slapstick. Là. Mais ça a été vraiment un mouvement. Puis il y a quelque chose justement avec Death Snow. Puis c'est un mouvement très contemporain des films après 2010, de mettre ce qu'on pourrait appeler des personnages geeks dans les films, donc des personnages qui connaissent tout sur les gens affrontés. Dans Death Snow 2, on a la fille qui fait toujours des références à Star Wars à toutes les deux minutes. C'est vraiment très gossant. Mais elle et ses amis, c'est le Zombie Squad qui habite aux États-Unis. Puis là, les autres, ils connaissent tout sur les zombies. Fait que c'est vraiment des nerds de zombies. Il y a comme cette méta-référentialité-là qui ressort dans les films. Même chose avec Zombieland, qui est comme un peu... Ou comme le guide de Max Brooks pour survivre à une apocalypse zombie, il y a quelque chose de méta-référentiel de faire « Ah, mais on connaît tout sur les zombies parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de films de zombies. Il y a vraiment eu beaucoup de choses. » Mais maintenant, on va réfléchir à pourquoi on connaît toutes ces choses.
Il y a un personnage comme ça dans la suite de John Die at the End, en livre, qui connaît tout sur les zombies. Mais c'est pas des zombies qui les attaquent. Fait qu'il fait juste comme nuire à l'action tout le temps. Ah, parce qu'il dit, mais c'est des zombies, il faut faire ça, puis il n'y a pas raison.
C'est ça, c'est misleading. C'est quand même encore, c'est très méta-référentiel. Sur la méta-référentialité, là, on commence à être loin dans le méta. Mais ouais, c'est ça, c'est très propre au film d'aujourd'hui pour voir à quel point ça l'a eu beaucoup d'ampleur, puis maintenant, les personnages dans les films savent que ça a eu beaucoup d'ampleur.
Oui. Mais c'est ça, c'est parti de loin, mais ça a été quand même amené d'une manière assez progressive, j'ai l'impression. Tu sais, l'humour a toujours été, à part Night of the Living Dead, où il n'y a pas vraiment d'humour, là, mais...
À la limite, tu peux dire que, justement, dans la fameuse scène où le zombie arrive au début, tu peux dire qu'il y a un certain humour.
Il y a une ironie tragique.
Le personnage principal qui taquine l'autre personnage, puis finalement, il y a quelque chose d'humour noir là-dedans, d'ironie quand même.
Puis aussi très pessimiste, de dire « c'est la fin du monde! Puis... »
Ouais, en plus.
Mais dans d'une façon un peu grossière, un peu grotesque, de dire que c'est à cause des zombies que c'est la fin du monde. Là, il y a comme ça, une ironie tragique ou quelque chose comme ça. Mais l'humour a toujours été en filon.
Justement, je pense que Dawn of the Dead, dans les films d'exploitation, souvent, il y a cette espèce de second degré, là, où comme, c'est pas vraiment sérieux, c'est pas vraiment une joke, mais tout le monde est au courant, là, que c'est un peu une joke quand même, là. Puis Dawn of the Dead, il y a vraiment ce second degré-là, puis même, tu sais, les scènes de supermarché, là, c'est de la comédie pure, là. Critique, c'est la comédie sociale, mais on est quand même dans les gros jokes. Fait que qu'on part de là puis qu'on arrive à genre une espèce de humour à la Scream dans tous ces films-là, je trouve que ça fit quand même.
Ouais, c'est ça, c'était un peu la suite logique des choses.
Il y a quelque chose de lien avec... Tu parlais de Wes Craven tantôt. Mm-hmm. Il y a quelque chose de lien avec les films de Wes Craven aussi. Mm-hmm. C'est de l'horreur. Mais il y a tout le temps quand même quelque chose d'humoristique quand même là-dedans. Puis comme c'est... tout est dans tout, là, finalement.
Ouais, puis ces gars-là aussi, quand tu les vois en entrevue, là, que ce soit David Cronenberg, John Carpenter, George Romero, Wes Craven, c'est des petits papis cute, là. Ils sont comme... ça vaut vraiment la peine d'avoir une entrevue de John Carpenter, là. Il est tellement humble, il est tellement fin, il fait des jokes, il fait un peu des blagues anti-establishment, mais c'est... il y a toujours cette espèce d'image du réalisateur d'horreur comme quelqu'un de torturé, puis quelqu'un qui a comme des drôles d'idées dans la tête, alors qu'ils sont... Voir qu'il y a de l'humour dans ce cinéma-là, finalement, c'est pas si surprenant que ça.
Mais il y a aussi... Tu sais que le visage de Romero est un peu devenu une icône, surtout avec ses grosses lunettes noires. Là. Puis c'est très, très reconnaissable. Je pense qu'il y avait eu des caméos dans certains jeux vidéo aussi. Là. Mm-hmm. Je ne sais plus c'est quel jeu, mais c'est comme le boss final. Là. Il fallait se battre contre Romero. Mais c'est ça, c'est pas juste ses films, mais surtout... en tant que personne, c'est vraiment devenu une icône de la culture populaire. Puis c'est sûr qu'il était toujours associé aux zombies, mais lui-même est un peu passé à l'histoire, mais en tant que personne, juste pour son œuvre. Mais je me souviens, je peux aller un petit peu dans l'anecdote, il y a 2 ans, je pense, qu'il était supposé venir au Comic-Con de Montréal. J'avais amené mon affiche de Dawn of the Dead pour la faire signer. Puis son bodyguard était vraiment un asshole. Fait que je suis partie. Puis quand j'ai appris qu'il était mort, 2 semaines à peu près, j'étais vraiment déçue. On dirait que j'avais manqué quelque chose. Mm-hmm. Même si je connais pas tout de Romero, c'est assez une icône assez importante pour moi pour traîner une grosse affiche dedans de toute la journée au Comic-Con. Et ça m'a quand même vraiment touchée quand il est... Quand j'ai appris qu'il était mort, là.
Je pense que... Ouais. Moi aussi, oui. Moi, j'ai l'impression que moi, en tout cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens de notre génération, même peut-être d'avant, qu'il y a comme une espèce de coming of age dans le processus de cinéphile, que tu découvres ce cinéma-là, tu découvres ces films-là, ces films qui sont comme des films un peu d'adolescents, ils sont catégorisés comme tels, là, des films un peu niaiseux, un peu gore, un peu... Puis finalement, on se rend compte qu'il y a autre chose là-dedans, puis là, on se rend compte que c'est des gars, c'est des films qu'il y a quelqu'un derrière, puis que ces gars-là ont fait d'autres films qui pourraient aussi être trippants. Puis finalement, il y a comme un processus d'apprentissage qui se fait. Puis en tout cas, pour moi, ça a été ça. Puis je connais beaucoup de gens que ça a été ça aussi, que finalement, le film d'horreur devient un espèce de vecteur où tu comprends. Tu comprends un peu à lire le sous-texte.
Oui.
Parce qu'il y avait il y avait tellement de sous-texte dans ces films-là que ça devient juste le fait d'apprendre à connaître ces films-là devient une espèce d'apprentissage. Puis moi, j'étais pas ado quand j'ai découvert ces films-là. J'avais genre 20 ans. Bon, j'étais immature là, à cet âge-là, mais ça s'est fait pour moi. Puis ça s'est fait comme ça pour, je pense, même des contemporains de Romero sans s'en rendre compte ou des contemporains des ados qui écoutaient ces films-là. Parce que c'est des films qui visaient quand même ce public-là ou qui visaient parce qu'il y avait juste... des ados ou des éternels adolescents qui allaient voir ce film-là, entre guillemets, hein. Même si c'est pas le cas, mais je pense que c'est ça peut-être qui a créé cette espèce de lien émotif.
Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai eu mon initiation à la critique du cinéma avec le cinéma d'horreur, justement. Ouais. Là. C'est vraiment à partir de ces films-là que j'ai appris à faire de l'analyse filmique, puis donc, pour moi, c'est quand même assez important. Puis, c'est pas juste le cinéma de Romero, mais le cinéma d'horreur en général, c'est tellement un genre assez puissant pour transmettre des messages, des critiques politiques. C'est assez surprenant quand on se dit que c'est juste des films de gore qui y a des gens qui meurent, puis ou des slashers. Mais il y a toujours un message derrière, puis c'est... C'est toujours intéressant d'essayer de se poser la question de qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi il y a un tueur en série? Pourquoi il y a un zombie? Pourquoi il y a un vampire? Qu'est-ce que ça veut dire sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre société? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre époque aussi? Là? Donc, on dit souvent que les films d'action post-9/11 ont un gros message politique fort, mais c'était le cas à l'époque, pendant la guerre froide. Ça vaut toujours la peine de se poser la question, oui. Mm.
c'est peut-être le moment de dire aux auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là qu'ils peuvent voir Night of the Living Dead sur YouTube gratuitement.
Ah oui, ben ça fait
parce
plus
que c'est un film qui est libre de droit à cause de plein de choses qu'on racontera pas nécessairement. Romero a pu les droits de ce film-là et c'est pour ça qu'il y a un remake aussi.
Moi, je prononcerai pas beaucoup là-dessus, mais j'ai entendu que c'était une légende urbaine, cette histoire-là.
OK.
Ouais, puis que Romero aurait comme dit comme... dans l'OD, le pas, ce film. Ben, c'est pas qu'il disait ça, mais qu'il disait comme c'est pas vrai qu'il est libre de droit.
OK.
Peut-être qu'il est devenu depuis, mais tu sais, cette histoire de pourquoi ils ont fait tant de remakes de ce film-là, puis qu'ils l'ont fait sous différentes... puis qu'ils l'ont présenté souvent au cinéma sans payer les droits. Mais apparemment, mais faudrait vérifier, mais apparemment que ça serait une légende urbaine.
Ça se peut très...
Je ne veux pas encourager personne sur Internet parce qu'Interpol va venir chez nous, mais tout est libre de droit, techniquement.
Oui, c'est ça.
Mais en fait, ça explique souvent que si tu achètes une compilation de 50 films d'horreur à voir, la plupart du temps, Night of the Living Dead dessus parce que ça ne leur a pas coûté cher d'avoir ça.
Et c'est un incontournable. En même temps, c'est peut-être ça qui a fait que c'est devenu un incontournable. C'est parce que maintenant, on peut le mettre dans toutes les compilations. Parce que ça coûte pas cher.
Peut-être par la bande. C'est sûr que je me souviens justement quand j'ai découvert tout ce cinéma d'horreur-là, qu'avant que tu tombes là-dessus parce que c'est plus facile de le voir que d'autres films.
C'est l'effet Wonderful Life, le film de Noël des années 50 de Frank Capra. Mm-hmm. C'était un gros échec commercial, puis c'est sombré dans l'oubli. Puis finalement, ils ont juste décidé de ne pas renouveler les droits d'auteur dessus. Puis à un moment donné, les chaînes télévision se sont rendues compte de ça puis sont mis à le passer tout le temps parce qu'ils n'avaient pas à payer les droits. Puis c'est devenu un classique à cause de ça. C'était un film qui n'était pas du tout aimé quand il est sorti.
C'est, on fabrique un peu la postérité à partir de tout. Plus on le montre, plus les gens le voient, les gens l'aiment. Puis on pense que c'est un classique alors que c'est juste parce que les gens...
Ben finalement, c'est devenu un classique par la force des choses. Mais c'était pas... Encore là, ça s'est fait tout seul. C'est ce qui est drôle. En essayant de ne pas protéger le film, ben finalement, on l'a rendu, on l'a rendu disponible puis on l'a rendu populaire.
C'est ça. Fait que Night of the Living Dead va sûrement passer plus facilement à la postérité grâce à ça. Et pas juste pour ses qualités cinématographiques et thématiques.
Mais c'est sûr que tu peux dire que beaucoup de gens découvriraient ce film-là de toute façon en voyant dans The Living Dead, voudraient voir ce qu'il y avait avant.
Mm-hmm.
Mais ça peut pas nuire.
Non, c'est sûr que ça peut pas nuire. Bon, ben, on va terminer l'émission là-dessus. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Boris. C'était très amusant de parler de zombies et de Romero avec vous. Et je vous laisse à une nouvelle émission de Pop en Stock. Merci. Thank you.